Ne vous êtes-vous jamais demandé comment certains animaux faisaient pour se fondre dans le décor ? Quand même à le dire Alain Bougrain-Dubourg, avez-vous remarqué que l'ombre du zèbre n'a pas de rayures ? Qu'en déduire ? Que dans la savane, l'œil du lion percevra plus facilement l'ombre d'un zèbre que le zèbre lui-même, ses rayures l'aidant à se confondre avec les hautes herbes qui l'entourent. Une interprétation imaginaire, non démontrée, et sans doute totalement fausse. Je parle de l'ombre, parce que pour les rayures, en revanche, c'est parfaitement exact. Même chose pour le tigre d'ailleurs, mais lui, c'est bien pour ne pas être vu par ses proies. Certains animaux sont en effet des champions du camouflage, soit pour éviter de servir de beefsteak à un prédateur, soit à l'inverse, pour s'approcher sans être détecté par son casse-croûte. L'évolution n'a pas été chiche dans ce domaine et des adaptations assez surprenantes existent. Quelle technique adopter pour un bon camouflage ? Pour simplifier, plaçons-nous dans la peau de proies potentielles, proies qui ne peuvent pas passer tout leur temps enfouies au fond de leur terrier ou perchées en haut d'un arbre. Il faut bien prendre des risques, ne serait-ce que pour aller se nourrir. On peut sortir la nuit, bien sûr, mais certains prédateurs, comme les chouettes ou les félins, sont équipés d'une vision nocturne. On peut ne pas bouger et même faire le mort, comme certains insectes qui tentent leur chance de dégoûter leurs prédateurs, mais l'immobilité a des limites. On peut se fondre dans la couleur du décor, mais si ce décor change, le risque de redevenir visible est grand. Au printemps, l'hermine ou le lièvre des neiges se dépêche de changer de costume, hein. On peut encore être plus subtil et changer de couleur en fonction du décor. Vous pensez bien sûr au caméléon. Mais je préfère la pieuvre ou la seiche qui sont encore plus formidables. Au passage, savez-vous que ce sont des bactéries symbiotiques nichées sous la peau qui leur permettent ces changements rapides de couleur ? Une autre tactique est celle du zèbre, adopter un motif qui va perturber la perception des contours. Le lion est victime d'un leurre, il voit le pelage du zèbre, il le voit très bien même, mais il a des difficultés à le détourer, à l'identifier en tant que zèbre. Par contre, si le zèbre commence à bouger, peut-être que le lion va s'en apercevoir. Certains se parent du décor lui-même, à l'image des oursins qui se couvrent de grains de sédiments ou de restes de posidonie, ces herbes marines qu'on trouve en Méditerranée notamment, un peu comme les membres de commandos qui se recouvrent de branchages. Néanmoins, les vrais champions sont ceux qui réussissent à prendre l'apparence d'un élément totalement différent, mais présent en nombre dans leur milieu. Les plus connus sont les phasmes, ces insectes en forme de brindilles, qui en plus sont capables de faire les morts et de ne pas bouger. Mais connaissez-vous la feuille morte de chêne, de son nom latin Gastropaca quercifolia, qui est un papillon dont les ailes refermées ressemblent à s'y méprendre à une feuille de chêne desséchée. Alors, vous pouvez penser que ce n'est pas très efficace en été quand le chêne a des feuilles vertes, mais pas du tout, car même en été, le chêne il a quand même quelques feuilles brunes, donc c'est très efficace pour le papillon. Et le grand prix de l'originalité, quant à lui, revient à une araignée assez incroyable qui se replie sur elle-même de manière à ressembler à une fiente d'oiseau qui n'intéressera bien sûr aucun prédateur, on peut l'imaginer. Pour le dire tout à fait simplement, ce que je viens de vous raconter, c'est du pas vu, pas pris. On essaye de se fondre dans son décor et on essaye de ne pas être pris. Cela va du camouflage assez rudimentaire, finalement, à des imitations assez réussies, voire assez surprenantes quand on pense à cette araignée. Mais il y a mieux. Et vous ne soupçonnez absolument pas l'ampleur de la palette des adaptations bizarres dans le domaine du camouflage. Pour ne pas compliquer trop les choses, je vais essayer d'adopter un langage très imagé, souvent centré sur un individu, alors que la sélection opère sur des populations. Donc il faudra quand même être prudent à l'écoute de mes propos et ajouter au moins implicitement « tout se passe comme si » avant certaines formules un petit peu raccourcies, je préfère prévenir d'avance. Première astuce, comment faire pour tout en étant vu ne pas être pris ? Que diriez-vous de vous faire passer pour un autre un petit peu à la manière d'Arsène Lupin ? Nous allons quitter le domaine du camouflage pour aborder pleinement celui du mimétisme. Alors on vient quand même d'en voir quelques exemples de mimétisme avec les copies d'éléments du décor, mais ce ne sont vraiment que des amuse-bouches par rapport à ce que je vais vous raconter maintenant. Et si je me faisais passer pour plus gros que je ne suis ? Les prédateurs sont certes courageux, mais pas trop quand même, et il suffit parfois de leur faire les gros yeux pour les inquiéter. C'est ce que font pas mal d'espèces de papillons, dont les ailes portent des motifs en forme de taches circulaires sombres, qu'on appelle des ocelles, qui évoquent les yeux d'un beaucoup plus gros animal. Ce phénomène est particulièrement spectaculaire chez certaines chenilles, dont une qui mime à s'y méprendre une tête de serpent, jusque dans sa forme. Donc le prédateur, forcément, il devient un petit peu craintif. On peut citer aussi le cas du Pteroïs ocellé, qui est un poisson du même groupe que les poissons scorpions. L'arrière de la nageoire dorsale du Pteroïs porte deux ocelles noires, mimant une paire de gros yeux. Cette fois, le leurre fait croire à tout prédateur potentiel que le Pteroïs partira dans la direction de ses faux yeux, alors qu'en fait, il va détaler dans l'autre direction. On peut aussi évoquer un lézard à collerette, qui est une espèce originaire du nord de l'Australie, qui mesure à peu près 80 cm, queue comprise. Sa stratégie de défense est de rester immobile, mais si la menace se rapproche, il se dresse debout sur ses pattes postérieures et déploie autour de sa tête une collerette vivement colorée, tout en ouvrant très grand sa gueule. L'apparence d'une grosse tête grimaçante surprend son attaquant, en lui laissant imaginer qu'il est face à une énorme tête de 30 cm de diamètre. Bon, si ça suffit pas, le lézard détale quand même. Hein. Courageux, mais pas téméraire. Autre astuce, et si je faisais prendre des vessies pour des lanternes à mon prédateur ? Un prédateur performant ne dispose en général que d'une fraction de seconde pour opter entre agir en sautant sur sa cible ou renoncer, et certaines proies sont très douées pour un petit peu semer le doute dans la tête du prédateur. L'amphisbène est un lézard sans pattes au corps cylindrique d'une vingtaine de centimètres, ce qui fait qu'il ressemble un petit peu à un gros ver de terre. Sa tête n'est pas marquée et ses yeux sont enfouis sous les écailles. Sa queue est courte, si bien qu'il est souvent difficile de distinguer l'avant de l'arrière. Et pour couronner le tout, les amphisbènes avancent en ligne droite et non pas en ondulant, ce qui fait qu'ils sont des surdoués de la marche arrière. L'effet produit est assez déroutant puisque lorsqu'un prédateur va se retrouver face à un amphisbène, il ne sait pas en fait par quel bout prendre l'animal sans risquer finalement une réaction aussi de l'animal, voire une morsure. D'autant que lorsque l'amphisbène est menacé, il va remuer en même temps la tête et la queue, qui sont peu distinguables l'une de l'autre, et pour le coup le prédateur ne sait vraiment pas où est l'avant et où est l'arrière. Cette forme d'automimétisme se présente aussi chez le serpent fouisseur faux corail, qui, lorsqu'il se sent menacé, redresse sa queue qui ressemble à sa tête, et la balance exactement comme un serpent corail aurait balancé sa tête, donc le mimétisme est parfait. Autre option, très astucieuse également, et si je ressemblais à une méchante espèce ? Une ruse bien établie consiste à porter le costume d'une espèce identifiée comme désagréable, voire toxique, ou carrément dangereuse pour un prédateur qui soit à la fois celui du modèle et celui de l'imitateur, bien sûr. Évidemment, l'espèce qui va copier sa voisine ne s'est pas brusquement mis en tête de lui ressembler. Cela va passer par un cheminement évolutif qui part d'une ressemblance un petit peu fortuite au départ et qui fait que les individus qui présentent cette ressemblance vont avoir tendance à mieux survivre et que cette ressemblance va progressivement s'améliorer au fil des générations et au fil de l'évolution jusqu'à des imitations qui sont franchement très très réussies. Ces tromperies très sophistiquées portent le nom de mimétisme batésien, du nom du scientifique anglais Henry Walter Bates, qui en a décrit le mécanisme pour la première fois. Ce type de mimétisme pose d'intéressantes questions d'équilibre évolutif. En effet, si l'inoffensif mimétique devient trop fréquent par rapport à celui qui l'imite, qui est dangereux, les prédateurs vont devenir moins méfiants. Ils vont devenir moins méfiants puisque la probabilité de tomber sur un inoffensif va augmenter. Et donc, le prédateur va préférer le risque d'une déconvenue, parfois éventuellement douloureuse, plutôt que de passer à côté d'un bon repas. Pour contourner ce problème de saturation, certains imitateurs deviennent polymorphes, c'est-à-dire que selon les individus, de ces imitateurs, ils vont imiter différentes espèces modèles, ce qui fait qu'ils vont distribuer le risque sur différentes espèces. C'est un petit peu ceinture et bretelle. Certaines mouches, qui sont des diptères, qui ont donc deux ailes, imitent des guêpes, qui sont des hyménoptères, avec quatre ailes. Et je suis sûr que vous en avez déjà vu de ces mouches qui sont rayées jaune et noir, sans vous-même vous rendre compte que c'était des mouches et pas des guêpes. Et je vous dois un aveu, au sein des imitateurs batésiens, j'ai un faible pour les faux serpents corail. Les serpents corail sont des serpents tropicaux extrêmement venimeux, dont le corps présente un motif annelé aux couleurs vives, jaune, noir, rouge, qui sont autant d'avertissements à l'encontre de prédateurs téméraires. Or, il existe deux espèces inoffensives qui les imitent plutôt bien, dont le faux corail, qu'on a évoqué un petit peu plus haut. Encore une astuce, vous voyez que l'évolution n'a pas été avare de ces astuces, et si je m'associais à une espèce aussi méchante que moi? Donc je me place dans la peau d'une espèce un petit peu toxique ou un petit peu agressive. Quittons le domaine de la supercherie pour entrer dans celui de l'association à bénéfice mutuel. L'allemand Fritz Müller, contemporain de Betz d'ailleurs, a décrit un mimétisme dans lequel ce sont deux espèces méchantes, disons toxiques, pour prendre un exemple, qui se ressemblent sans pour autant être apparentées. Elles adoptent le même signal qui dit « attention, je suis désagréable » à l'encontre de leur prédateur, qui doit alors se méfier de tout le monde. Le cas typique est celui de papillons tropicaux du genre Heliconius. Plusieurs espèces d'Heliconius arborent des teintes rouge vif sur fond noir selon un patron, un motif qui est très convergent. Ces papillons sont toxiques, et pour ainsi dire, la mauvaise réputation des uns et des autres se renforce mutuellement, et donc leur protection aussi, puisque les prédateurs vont apprendre à se méfier de tout le monde. Les dendrobates et les phyllobates, qui sont des petites grenouilles tropicales très toxiques, arborent toutes des motifs colorés qui se ressemblent également. Le mimétisme mullérien repose sur l'existence de signaux d'avertissement qui se trouvent renforcés, c'est-à-dire que si plusieurs espèces adoptent les mêmes signaux, les prédateurs seront plus facilement éduqués, dressés en quelque sorte, et les cibles mieux identifiées comme toxiques. On voit bien que l'évolution n'a pas été avare de solutions. Tout caractère héritable, qui permet aux individus qui ont acquis ce caractère de se montrer discret, de se camoufler, ou bien de se montrer capable de perturber, de surprendre ou d'effrayer le prédateur, eh bien ce caractère se maintiendra dans leur descendance, car il augmente simplement leur chance de survie. En guise de conclusion, il faut reconnaître que c'est souvent carnaval au bal du camouflage et du mimétisme animal. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, Charlotte Roux.